Donc ici, en reprenant un peu rapidement Vygotsky, c'est cette réflexivité, c'est vraiment ici de fournir des outils qui vont permettre des prises de conscience, qui vont opérer des changements de compréhension de l'activité. C'est très difficile de le faire en situation, en direct, et on a essayé plusieurs fois de le faire. Ça m'arrive des fois auprès des professionnels que je suis dans les couloirs. Ça, c'est plutôt les chefs d'établissement, les inspecteurs, les recteurs qui ont d'autres statuts, mais en classe, c'est un peu plus difficile. Donc, ça sert à mettre en mots son expérience, à reprendre son travail et sa santé professionnelle en main. Ça peut être le cas dans des situations douloureuses. Transmettre à autrui son expérience avec deux orientations distinctes et qui sont pour moi assez essentielles. C'est d'un côté une approche compréhensive pour comprendre ce que font les professionnels. Et vous avez entendu les notions d'autoconfrontation hein, qui correspondaient aux outils qui sont en tout cas souvent utilisés par rapport à ça, mais aussi l'entretien d'explicitation. Mais après, les aider à transformer leur activité professionnelle. Et je suis dans cette épistémologie, je dis très clairement. C'est-à-dire que quand je fais du cours d'action, je veux dans un premier temps décrire l'activité, mais je suis chercheur, hein, vous êtes formateur, formatrice, je sais. Et à partir de là, modéliser l'activité, ben, Néopas, ce sont des éléments de modélisation de l'activité qui vont servir à la formation. Et je peux très bien être dans une approche compréhensive, même si le jeune Romain, jamais je l'ai laissé sans réponse, il me posait des questions et si je pouvais l'entraider. Bien sûr que ça joue, que ce n'est pas de la recherche de laboratoire, et que le fait d'accompagner des collègues, même si on fait de la recherche, on ne peut pas déontologiquement laisser un jeune en difficulté lorsqu'on dit non, non, j'ai prélevé, j'ai ce qu'il faut, au revoir, débrouille-toi, bon courage. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il peut y avoir des réassurances, il peut y avoir des moments d'aide, et que ça participe à son développement professionnel. Mais ça donne suffisamment d'éléments même des situations de travail réelles pour penser qu'elles vont pouvoir être capacitantes pour d'autres collègues par la suite. Et puis il y a ceux qui, au contraire, ont une visée transformative, c'est-à-dire qu'en gros, qui vont directement perturber l'activité, c'est-à-dire dans de la dispute, dans de la controverse, essayer de comprendre ce qui se joue dans les tensions pour donc avoir cet objet dans une approche de controverse. Identifier les dilemmes, les tensions, les épreuves, mettre deux collègues qui ne vivent pas, qui n'ont pas la même sensibilité par rapport au travail pour transformer l'activité. Et c'est cette variation autour d'une situation professionnelle, variation de style, potentiellement identification d'un genre, qu'on peut mieux comprendre le développement professionnel. Et donc c'est ici une perspective où on est plutôt dans une approche de transformation à des fins de compréhension. Alors que dans la première partie que je vous ai donnée avant, on est plutôt dans une approche compréhensive avec une forme de neutralité pour prélever l'expérience et après accompagner. Vous voyez et les outils que vous allez utiliser, ils servent potentiellement à l'une ou l'autre des orientations, voire les deux. Il faudra être un peu vigilant, et ça me semble être de l'ordre de la formation de formateurs, de prendre conscience de ces éléments-là. Que vous soyez niveau 3 déjà, parce que vous en faites depuis 15 ans, vous débutiez. Je pense que de comprendre un peu ces lignes de crête, ça me semble important. Je mets en place une situation de travail de groupe, d'atelier, de classe inversée. Enfin voilà, j'ai pas mal travaillé avec Patrick Rayou sur les effets de ces configurations de classe. Qu'est-ce que ça génère? Et qu'on ait une sorte de vigilance critique individuelle et collective pour savoir que produisent ces nouvelles configurations ou ces nouveaux formats pédagogiques? Quelles en sont les limites? Ben, il fallait enquêter les élèves, quoi. C'est impressionnant de ce que disent les élèves avec des moments où, effectivement, ils ont l'impression d'être lâchés seuls, que les traces données ont disparu. Les bons élèves, en plus, parfois, perdent totalement leur repère dans certaines situations de travail. Travail de groupe, ça peut être complètement improductif. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on a pu montrer avec Patrick Rayou. Le but, ce n'est pas de jeter, mais c'est de comprendre à quel moment le travail de groupe est pertinent ou non. Dans les situations de classe. Vous avez la chance, en tant que formateur, formatrice, mais vous n'avez pas le temps, je sais, d'avoir multiples outils à disposition. Et là, il faut être ouvert, mais peut-être aussi vigilant par rapport aux épistémologies, ce que j'essaie de décrire ici. Analyse de pratique, instruction aux sosies, autoconf, odaloconf, entretien d'explicitation, mise en situation d'apprentissage, théâtre forum, et il y en a plein d'autres. C'est juste certains parmi d'autres. On a parlé du GIAS ce matin, on a parlé, voilà, y a de l'approche institutionnelle, de la pédagogie institutionnelle. Enfin, y a plein de perspectives méthodologiquement. Donc, je pense que c'est bien pour un formateur ou une formatrice ben, d'en connaître quelques-uns, de les tester, d'ouvrir un peu la boîte à outils, de l'étoffer, et puis de voir ces outils, de les mesurer, de les comprendre, et puis peut-être d'en inventer aussi, hein, d'inventer des combinaisons. C'est quand même l'idée de dire qu'il y en a qui vont être plutôt favorables, propices à la compréhension, et d'autres qui vont être plutôt favorables, propices à la transformation. Si je prends un ou deux exemples, simplement, l'entretien d'explicitation, dans sa première phase, sans trace d'activité, on est plutôt sur de la compréhension de phénomènes kinesthésiques très très fins. Quand j'avais des verbatims avec ben là j'ai peur, ou je suis très ému, Pierre Vermet, je me dis, mais non, mais Luc, le travail, il débute là. Toi, tu t'en restes là à ton niveau d'expérience de surface, mais il faut aller beaucoup plus précisément sur les sensations kinesthésiques, proprioceptives, etc. Donc lui, c'était vraiment une enquête excessivement fine d'un point de vue des phénomènes vécus. Alors voilà, c'est la question, est-ce qu'on va jusque-là si profondément, ou on considère que lorsqu'un débutant dit là, je suis très affecté, est-ce qu'il faut continuer dans le flux de son activité, de son expérience, ou au contraire, enquêter, etc. Là, on est quand même sur de la compréhension, on n'est pas sur la transformation. Vous voyez ça. Si on fait l'entretien croisé directement, on est directement sur des éléments même de transformation. Ensuite, on peut imaginer qu'il faut repérer, c'est à mon avis de votre responsabilité, qu'est-ce qui est de l'ordre du discours. Si on fait des récits de vie, par exemple, où on fait, c'est de la narration de l'activité, c'est déjà une forme de transformation par l'acteur ou l'actrice lui-même, par cette mise en mots à l'écrit. Est-ce qu'on convoque simplement la mémoire comme l'entretien d'explicitation, avec des fois des décalages. J'ai des collègues qui m'ont dit, bah, je racontais des trucs, et puis en fait c'était tellement décalé par rapport à ma... Voilà, j'avais perdu les pieds entre le dire et le faire. L'entretien d'explicitation est très fin, mais il peut être potentiellement en décalage. Est-ce qu'on est sur des traces écrites? Est-ce qu'on est sur des traces d'activité? Est-ce qu'on est sur de la photo, etc. Donc là aussi, les supports ne sont pas les mêmes. Et les supports ne sont pas tous aussi faciles à recueillir, j'en conviens. De faire une photo de classe ou de filmer pendant 3 heures avec un micro HF, ça n'a rien à voir. Et le but, vous n'avez pas, en tant que formateur, formatrice, à faire une thèse, et vous n'avez pas à avoir 12 heures de vidéo avec des gigas qui encombrent le disque dur, ça sert à rien. Et là, je pense qu'on a progressé par rapport à ça. Puis on a tous quand même maintenant technologiquement des outils qui suffisent et qui n'ont pas besoin de passer par de la vidéo de haute qualité. Est-ce qu'on est sur son activité, sur l'activité d'un tiers ou l'activité des apprenants? C'est très large, hein, j'en conviens. Est-ce que ça expose largement la personne observée ou est-ce que c'est plutôt un travail par procuration? Est-ce qu'on est plutôt sur un cas générique, emblématique? Est-ce qu'on est plutôt sur un cas partagé ou au contraire un cas très singulier? Et comment on va pouvoir faire pour monter en généricité à partir d'un cas singulier? Voilà, c'est pour moi déjà des vigilances à avoir sur les outils qu'on va utiliser. C'est une façon de faire une forme de taxonomie et de guide ou de repère. On est ici sur l'alloconfrontation, donc c'est l'activité, la visualisation, le visionnement de l'activité tierce. Donc ici, c'est vraiment en général par les banques de données, les banques vidéoscopiques, la BSD, les travaux qui ont été faits aussi au Canada, Néopass Action depuis des années, depuis une quinzaine d'années. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi des petits collectifs qui vont à un moment donné construire. Bien sûr, ça va demander d'avoir des autorisations de conserver des images ou des vidéos. Je fais ça très régulièrement dans des académies, dans des cantons, des secteurs, etc., où il y a ces corpus locaux qui apparaissent. Parce que de voir un Néopass Action d'un jeune prof, c'est très anthropologique et tout le monde reconnaît l'activité, son activité de début de cours à l'aune de l'activité d'autrui. Mais parfois, il y a quand même des différences culturelles qui jouent. Et lorsque dans d'autres pays, je présente les vidéos françaises, assez rapidement, on me dit oui, mais c'est pas tout à fait comme ça chez nous. Et ça nous est arrivé sur des expérimentations à Paris de dire oui, mais ça, c'est des gamins du Sud, ce ne sont pas nos élèves. Donc, et des fois, c'est non, non, mais là, il y a 23 élèves, moi j'en ai 25. Donc ça change tout. Enfin, vous voyez, bon, je joue un peu avec, mais c'est de dire que des fois, de dire, voilà, ça va être avec nos propres élèves, il y a souvent une sorte de montée en appétence par rapport aux collègues qui disent, ah oui, là, on n'est plus avec des vidéos tierces qui ont toujours un caractère un peu d'étrangeté ou de suspicion par rapport au fait que ça ne peut pas être forcément porteur pour moi. C'est pas moi, mais c'est pas moi, mais ça crée quand même des variations un peu complexes. Je préférerais que ce soit directement mes élèves. Et de voir un collègue qui a accepté d'être filmé ou qui accepte de venir avec des matériaux d'élèves que j'ai pu avoir en cinquième ou que j'ai déjà, Voilà, on n'est pas au même niveau de résonance et éventuellement de réflexion par rapport à ça. Donc, il y a ce double jeu de miroir que j'ai déjà évoqué tout à l'heure sur enquêter sur une activité tierce, mais forcément, ça favorise une réinterrogation de sa propre activité. Et cette notion de apprendre par procuration, c'est-à-dire que potentiellement apprendre, hein, c'est-à-dire visionner, observer, comprendre, enquêter et potentiellement apprendre sans être exposé soi-même. Et il y a beaucoup de débutants qui apprécient ça, et quand je montre les vidéos de Néopas Action aux normaliens qui sont agrégés de plusieurs disciplines et qui vont enseigner dans les 3 mois qui viennent, ils apprécient beaucoup de voir ces situations exposantes, critiques, typiques, dans lesquelles ils vont pouvoir prélever des informations, construire une autre façon d'appréhender la situation. Et c'est impressionnant de voir comment, en une journée, ils construisent des éléments de leur propre professionnalité. C'est vraiment de la pré-professionnalisation utile. Et ils repartent en disant, waouh, mais demain matin dans la classe, je sais comment je vais commencer et je vais éviter toutes ces voies sans issue, d'attendre le silence, de mettre en jeu mon identité professionnelle, ce que vivent dans ces longs tunnels anxiogènes ces enseignants débutants qui essayent de pas par la tenue de classe d'exister. Alors que c'est bien sûr en transmettant et en mettant le plus rapidement possible les élèves au travail qu'on va pouvoir construire cette identité professionnelle et faire autorité didactique, scientifique, etc. Le risque, éventuellement, une vidéo soit, si on met pas si on lâche une vidéo comme ça sans donner des règles, une déontologie, sans mettre en avant une méthodologie très précise de ce qu'on attend, mais il peut y avoir des réactions assez véhémentes. Je connais ça depuis 15 ans ou 20 ans, où il y a de la virulence, il y a de la critique. La culture française est critique. Elle est aussi très hiérarchisée par rapport à des métiers. Et avec l'impression qu'un inspecteur, inspectrice, désolé pour ceux qui sont ici présents et avec qui j'ai beaucoup de relations très favorables, et je vois bien aussi toute la réflexion qu'ils ont actuellement pour aussi transformer leur identité professionnelle vers des métiers d'accompagnement et de ressources et de compétences indéniables, de pouvoir ne pas être dans le jugement, ne pas être dans l'évaluation en creux, prendre le temps de voir ce qui se joue, comprendre les préoccupations, les intentions de l'acteur, c'est mener cette enquête. Et assez rapidement, spontanément, peut être assez réactif et virulent. Je lis simplement cette consigne que vous connaissez pour beaucoup. Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en situation de devoir te remplacer dans ton travail. Quelles sont les instructions que tu voudrais me transmettre afin que personne ne se rende compte de la substitution? Je vais vous tutoyer. Demain matin, je prends ta classe. Quelles sont les règles que je dois avoir sur l'entrée en classe? Alors, est-ce que c'est sur toute la journée? Non, ça va être absolument incommensurable à faire. Mais au contraire, sur une situation professionnelle qu'on aura pu identifier au départ. Vous avez ici une image, on est en entreprise, dans un milieu hautement confidentiel. Impossible de filmer, impossible de faire de la photo. C'est vraiment un lieu très, très, très préservé par rapport à des questions, bien sûr, de process industriel, etc. Et la collègue fait un entretien d'un employé, d'un collègue, pour comprendre comment elle rentre dans une réunion et comment elle s'adresse aux collègues. Alors c'est osé. Donc, et elle veut prendre sa place, elle veut comprendre les règles minimales pour pouvoir être la plus habile et la plus pertinente dans la situation. Ça pourrait très bien être sur un geste professionnel identifié. Vraiment, ce moment, et ça a été au départ à l'origine, hein, sur des ouvriers qui étaient analphabètes. Dans les usines Fiat, c'est les travaux d'Odonné, et donc on voulait conserver leur expertise, et c'est par ces modalités de transmission à l'oral qu'ils pouvaient donner les règles, les process les plus opérationnels pour eux, les plus efficaces dans l'entreprise. Donc c'est vraiment pour moi une délimitation d'une séquence de travail pour faciliter la focalisation de l'entretien sur les détails du travail, sur le comment, sur les procédures, et non pas sur le pourquoi. On n'est pas sur des éléments de justification, mais d'émergence des règles d'action, d'émergence des gestes professionnels, des constituants des gestes professionnels. Donc vous voyez qu'ici, l'instruction sosie va avoir des avantages et des inconvénients. On n'est pas sur le continuum de l'expérience, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais sur des éléments isolés que peuvent être les gestes professionnels. Le sujet est confronté par lui-même, par la médiation de l'activité du sosie, parce que progressivement, on se construit des éléments de culture par rapport à ce que le sosie va jouer comme jeu. C'est un jeu assez intéressant. Bon, maintenant, l'entretien d'autoconfrontation, j'en ai aussi beaucoup parlé. C'est vraiment, on est dans un autre monde techniquement. J'essaie de dire que c'est une méthodologie pour se mettre de nouveau face à son activité. Mais c'est-à-dire en gros, je donne des traces d'activité. Alors pour les enseignants, ça peut être 1 heure après, 1 demi-heure après ou 3 jours après, si on considère que c'est pas à chaud. Ça peut être avec un enseignant qui choisit lui-même les extraits sur lesquels il veut travailler. Ou c'est vous qui êtes particulièrement intéressé par une thématique, parce que cette thématique, vous l'avez depuis 3 mois avec lui, et qu'on veut continuer l'enquête 3 mois après sur cette question-là. Par exemple, le décalage de vocabulaire des élèves de son propre vocabulaire par rapport à des élèves de sixième, ou une autre thématique, peu importe. Et qu'à partir de là, c'est refaire en sorte que l'expérience, de révéler l'expérience qui s'est déployée à un temps T. Donc c'est une expérience de réenactment, au sens de Varela, c'est de réémergence, pour que la personne revive la situation. Donc on n'est pas du tout dans l'épistémologie de Vermeersch avec de la remémoration, mais c'est du recouplage à la situation. Et alors quand c'est bien fait, tu vois là, tout de suite, je regarde un tel, donc en fait la personne repasse au présent. Et repère des éléments pour, on voit ici sur cette image, des éléments montrables avec le corps qui parle, avec, mais là, tu vois, je suis perturbé par ça, je vais vers lui, puis tu vois, j'entends, cette vidéo, elle est assez incroyable, elle est d'ailleurs, je crois, sur la plateforme de la chaire UNESCO, elle dit, ben, là, il y a des nappes de silence qui se construisent, je suis sensible à ça, je vais vers ça. Alors, c'est très anecdotique, vous allez me dire. Mais en même temps, construire le silence pour une professionnelle qui ressent comment... Le collectif a conscience du silence qui se construit et que pour elle c'est important en tant que professeur de français dans le démarrage de son cours autour d'un texte littéraire. Voilà, ça a du sens. Et on est dans la dynamique à grain très fin. Et quand je montre ça à des professionnels, ils se reconnaissent dans la situation-là. Donc vous voyez cette notion de concept pragmatique à la Pastrée, un concept pragmatique, construire le silence, si on considère que c'est ben c'est une expérience qui n'existe pas dans les manuels scolaires. Mais qui émerge de l'action, qui oriente l'action et qui est partageable par une communauté professionnelle qui connaît bien sûr ce moment où on attend le silence et on voit une nappe qui se prolonge, qui s'atténue et qui tout d'un coup se fige et qu'on peut démarrer. Alors, ce n'est pas du tout le monde de Romain, on l'a compris. Donc voilà, c'est vraiment rentrer dans ces éléments-là expérientiels. Mais ce schéma paraît bizarre, mais j'en profite pour. Faire un peu une comparaison entre l'instruction en sosie et l'entretien. L'instruction en sosie, c'est un dialogue entre cette collègue, qui est donc une chercheuse ou une intervenante en milieu professionnel, qui ne connaît rien, et là pour le coup c'est vrai, alors qu'on peut avoir des faux naïfs, hein, des faux sosies qui connaissent très bien, mais qui vont jouer le jeu d'eux. Elle ne connaît rien du tout, et elle veut s'acculturer à un nouveau métier qu'elle ne connaît absolument pas. J'adore ça. Moi je connais le métier plus c'est excitant, parce que des fois, autrement, on est obligé de faire comme si on ne savait pas, quoi. Et ici, donc, on voit bien l'adressage donc du collègue qui mobilise sa mémoire. On est en train de construire une docu-fiction, une histoire fictive se passant dans un contexte historique, professionnel, reconstitué de manière à être le plus proche possible de la réalité. Mais c'est quand même une fiction, quelque part, c'est une reconstitution pour un clone qui est le clone que va endosser cette collègue pour pouvoir remplacer la personne sans qu'on puisse... A priori, on ne parle pas des habits, hein, mais a priori, comprendre ou comprendre effectivement cette substitution. De l'autre côté, l'autoconfrontation, on est sur un autre niveau, on est sur l'actrice qui cette fois-ci s'adresse à un analyste, un formateur, formatrice. Donc bien sûr qu'il y a une sorte de médiation et qui parle de son activité. Bien sûr qu'on n'est jamais dans une situation qui va être totalement celle de l'expérience. Mais potentiellement, elle peut être assez proche de celle de l'expérience, médiée par un tiers. Alors bien sûr, si le tiers, c'est un chercheur qui est à fond sur les émotions et qui veut tout comprendre des émotions, il va hyper engager la collègue à parler des émotions dans le travail. Et c'est une forme, vous voyez, d'approche un peu tautologique où je suis intéressé par quelque chose et je vais prélever tout ce que je veux sur le quelque chose. Alors que le but, ce n'est pas ça, ici, là. C'est de vraiment reconnecter la personne à son expérience. Pour qu'elle la revive elle-même. Et que parfois, elle ait aussi des évaluations en disant, ah oui, mais là, c'est pas efficace, hein, ce que je fais. Écoute, je ne te demande pas d'être dans le jugement pour l'instant. Décris-moi ton activité. Tu penses à quoi à ce moment-là? Donc là, vous voyez, il y a des méthodologies pour, enfin, en tout cas, il y a des guides pour pouvoir relancer cette activité-là. Vous voyez qu'on est dans deux mondes différents, dans deux techniques différentes. Dans le premier, on est sur dire le faire sans trace d'activité. De l'autre côté, c'est expliciter le vécu, alors expliciter à la Vermeersch, hein, quelque part, sur trace d'activité. Donc on est vraiment, on cherche des choses très différentes. Et si je me permets d'être un peu vis-à-vis de vous exigeant, c'est parce qu'il me semble que des formateurs et formatrices doivent comprendre les outils, au-delà même de l'usage de l'outil. Quels sont les processus en jeu, en fait, hein, et qu'est-ce qu'on peut prélever, qu'est-ce qu'on peut obtenir d'eux? Alors, bien sûr que quand on est dans ce travail avec l'autoconfrontation, ici, on n'est pas sur du croisement où on fait parler d'autres professionnels. On n'est pas sur la culture inter-individuelle. On est sur une approche uniquement individuelle liée à l'expérience. Même s'il peut y avoir des éléments même qui sont produits par la culture de l'établissement scolaire. Donc, si vous voulez être dans la controverse professionnelle, il ne faut pas utiliser ça. Oui, il faut l'utiliser dans un premier temps pour montrer après l'entretien à d'autres professionnels qui vont réagir, surréagir, mettre à l'épreuve cette activité et montrer d'autres façons de vivre l'activité. Et ça va assez loin parce que j'ai eu la chance cet été de refaire un entretien avec Jacques Thoreau, un peu en lien avec les travaux que je mène sur ces approfondissements vis-à-vis de ces différentes approches de l'activité. Et pour lui, alors lui, il est catégorique, hein, c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette controverse méthodologique. Pour lui, la réflexivité, si on cherche à atteindre directement la réflexivité, on risque de tuer l'expérience vécue. Et si on tue l'expérience vécue, on va forcément moins être enclin ou encline à pouvoir produire de la réflexivité. J'en dis deux mots, hein, ça paraît un peu théorique, mais d'abord, l'entretien d'autoconfrontation, EAC, ben au début, c'est pas Jacques Thoreau, c'est pas Yves Clos, enfin ben voilà, j'ai pris ce temps avec lui de revenir sur la genèse et l'archéologie finalement de ces outils. Au début, c'était en psychiatrie, dans une visée curative, qu'on faisait des entretiens d'autoconfrontation pour restaurer l'identité des personnes, etc. Et puis c'est à partir de 1982 que von Kranach, qui avait une théorie en trois niveaux, comportement, cognition, etc., et culture, de l'activité professionnelle, qu'il utilisait l'entretien d'autoconfrontation, détourné donc de la psychologie, enfin en tout cas de la psychiatrie curative, pour en faire une modalité d'accès à l'expérience. Jacques Thoreau et Pinsky, en 85, quelques années après, qui étaient un peu au milieu du gué, Thoreau était en train de finir sa thèse, ils avaient des données très intéressantes, mais ils n'avaient pas d'outils pour pouvoir accéder à l'expérience où ils essayaient de vraiment de pouvoir, en situation même de travail, vous voyez, en même temps qu'eux, essayer d'avoir accès à l'expérience. Et ça marchait mal. Donc ils se sont dit, plutôt que d'être en situation ordinaire, naturelle, et ça perturbe énormément, on va faire une situation artificielle et provoquer, construire ce protocole d'entretien, un protocole normé pour essayer de mettre en avant cette conscience pré-réflexive selon l'épistémologie de Sartre. J'en dis pas plus. Donc pour lui, c'était de maintenir la personne en situation professionnelle ou la remettre dedans pour lui faire vivre le tenté lorsque la personne s'en échappe. J'ai eu des thèses, par exemple, sur des enseignants très chevronnés qui racontent leur vie, qui surgénéralisent. Mais là, tu me dis ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, la situation là. Donc la grande difficulté, c'était de les rattraper, de les remettre dedans. Parce que ça peut être 4 heures, parce que j'ai des étudiants et étudiantes en thèse qui ont fait des entretiens de 4 heures. On dit en général, un entretien d'autoconfrontation recherche, c'est pour 1 minute, c'est 4 minutes d'entretien. Vous voyez, une sorte de rapport de 1 sur 4. Alors vous voyez, 1 heure, 4 heures, voilà, ça fait partie un peu des normes. C'est épuisant pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on en tire? Donc voilà, il faut aussi avoir des techniques pour savoir pour prélever des matériaux assez pas trop mous et pas trop inconsistants par rapport à ça. Et puis là aussi, hein, je veux dire, il y a des pays où l'entretien d'autoconfrontation, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, et ben c'est la récitation de la prescription. Non, mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande pas de me rappeler les règles prescrites dans ton école de formation. Je te demande de me parler de ton expérience. Et lorsque l'on n'est pas dans une culture d'explicitation d'expérience, et ben j'avais les mêmes contenus d'entretien avec différents acteurs, actrices qui n'osaient pas se donner, parce que ça ne faisait pas du tout partie de leur culture d'analyse du travail. Si l'activité réflexive est présente dès le départ de l'entretien, parce que la personne, lorsqu'il fait son entretien, forcément, il prend des repères, il comprend les choses autrement mieux, donc il y a des moments d'embarquement où il est vraiment sur la réflexivité, il produit la réflexivité. Le but, dans cette perspective-là, pour nous, c'est de la neutraliser, cette réflexivité, pour être sur une approche compréhensive. Ça va? C'est-à-dire, en gros, non, mais tu me dis que... Non, je ne te demande pas ça pour l'instant. Non, tu dis que ce n'est pas bon, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais j'aurais pu faire autrement. On en parle après. Donc, pour préserver ce temps de comprendre la situation, et vous avez vu toutes les limites de l'observation extérieure. Pour moi, je me documente pour être sûr de bien parler de la même chose. Synchroniser les expériences d'observateur, observatrice, mais aussi de la personne qui était observée. Parce qu'autrement, on va être sur des faux-semblants, et il va y avoir des mésinterprétations permanentes. Accident de la route, poum! Chacun est dans son monde, chacun a une vision même de la scène. Prenons le temps de documenter et de resynchroniser nos expériences pour bien parler de la même chose et non pas en décaler. Et c'est tout l'utilité discutée du conseil pédagogique qui part sur de l'observation et qui arrive à vraiment des résultats très stériles, très, très discutés par la recherche. Hein. Sébastien Chaliez a fait une revue de littérature dans les années 2000 hein, qui a largement impacté ou mis en avant l'utilité discutée, très relative en tout cas de ce type de prescription, si on ne prend pas le temps de resynchroniser les expériences, dire voilà, en tant qu'observateur, observatrice, j'ai vu ça, je peux compléter le point de vue de la personne en première personne pour pouvoir arriver à faire ça. Et c'est pour lui, à partir de là, d'abord qu'on produit de la compréhension et qu'après, on peut avoir, et que c'est simplement par la compréhension qu'on aura accès à l'activité réelle, et qu'après, on va pouvoir produire de la transformation. C'est son épistémologie qui n'est pas forcément partagée, vous l'avez compris. Donc pour lui, produire de la connaissance, et puis après, des modalités d'accompagnement. Je suis formateur, formatrice, je ne suis pas chercheur, et je ne veux pas m'embarquer dans ces nuances-là. Ok, donc vous voulez directement transformer. Le risque en voulant transformer directement, c'est que vous... Alors, il y a des techniques par rapport à ça, je ne reviendrai pas sur toute la pertinence hein, des controverses professionnelles. Le risque, c'est que vous souhaitiez transformer à l'aune de votre propre perception de la situation. Donc, qu'il y ait une partie de documentation au départ et de neutralité, ce que font les inspecteurs et inspectrices lorsqu'ils essayent de comprendre ce qui s'est joué là, pour qu'il y ait une intelligibilité commune qui passe par cette première étape et deuxième étape de transformation. Mais ça peut être discutable, hein. C'est une épistémologie, en tout cas c'est plutôt la mienne, et j'accepte bien évidemment d'autres perspectives. À partir de là, tout ce que j'ai pu mettre en avant, c'est le fait qu'on analyse de l'activité, j'ai défini l'activité, l'activité qui est un élément dans toute cette cartographie galaxie de chercheurs-chercheuses, pour enquêter sur le travail, pour dépasser le dire du faire. J'ai trop vite montré les limites de cette seule verbalisation sans aucune trace d'activité, et pour essayer de dévoiler l'expérience et quoi en faire de cette expérience-là, bien sûr. Et il faut bien sûr vous affranchir de toute cette lourdeur méthodologique et épistémologique. C'est pour ça que j'ai proposé, mais d'autres, hein, il y a d'autres techniques, par exemple, vous avez des outils, des matrices, etc. J'ai avec Valérie Lucie Bauer, qui a travaillé assez longtemps, 2015, dans les années 2012, 2013, 2014, on a travaillé ensemble sur un LEA, lieu d'éducation associée. On essaie de vraiment concentrer des techniques à la fois de description, mais aussi de recours à l'expérience et de transformation, vous voyez, dans des modalités. Alors, je sais que vous les avez pas mal testées de votre côté, avec des limites. Hein, ces outils-là, il faut les recomposer, il faut les remettre à votre main. Pour que ça ne soit pas des autoconf de 4 heures, que ce soit vous voyez, des retours sur expérience, des débriefings qui soient acceptables, viables sur des temps courts, 20 minutes, c'est chaud 20 minutes, hein, ça va vite. Hein. Si on est un peu fin, ça va vite. Mais voilà, et bien placé dans le temps, pour que ça puisse être utile aux professionnels, que les collègues voient le sens de la démarche, et progressivement, il faut qu'il y ait un peu de continuation dans la démarche, pour qu'on ait des repères communs. Parce que si vous changez d'outil toutes les 10 minutes, c'est injouable. Enfin, vous voyez, il faut du temps de familiarisation. C'est comme si tous les matins, on vous demandait de changer de logiciel. Enfin, bon, c'est pas tout à fait possible. Simple d'utilisation, assimilable, longitudinale, avec une éthique, bien sûr. Hein, je ne reviens pas sur tout ça. Donc, on a construit quelque chose qui est plutôt de l'ordre de co-décrire l'activité. D'abord, en première personne, plutôt en extériorité ou au contraire l'inverse. Explicitation des intentions, c'est-à-dire comprendre ce qui se joue dans l'expérience par rapport à ce qui est de l'ordre des objectifs, sans en juger la pertinence. Et puis une phase qui est plutôt de dire est-ce que c'est pertinent, pas pertinent par rapport aux objectifs que tu t'es donné, où on essaye d'évaluer la pertinence. Vous voyez, quelque part, c'est une forme d'évaluation des moyens mis en œuvre et du résultat obtenu, hein. Est-ce que c'est efficace, efficient? Est-ce qu'on pourrait faire autrement, objectivement, subjectivement? Et puis recherche de solutions conjointes. Et on essaye d'avoir une forme d'organisation un peu, où ça peut être alors deux néos qui jouent ça, en ayant un peu ces règles d'or ou ces étapes. Un néo et une plus chevronnée, un formateur, formatrice. Deux chevronnés dans une discipline différente. Voilà, on a joué toutes les martingales par rapport à ça. Et c'était tout à fait intéressant de voir ce que ça générait et de voir comment il y avait aussi des plus chevronnés qui apprenaient de l'activité des néos. Hein. Je crois que là-dessus, il faut être aussi complètement. Et puis après, vous voyez donc ce que je fais là, très vite, mais c'est de dire que. Il faut construire, c'est à vous de construire. Par exemple, là, je teste ça sur Fribourg avec des collègues en formation avec moi. Ils me disent, Luc Ria, on n'a que 4 semaines d'accompagnement des stages, on n'a pas du tout le temps de faire de la vidéo, c'est un peu anxiogène. Alors qu'il y a des groupes qui ont démarré à 90%, eux, ils n'arrivent pas à démarrer. J'aurais dit, écoutez, bon, ok, on part sur la photo, c'est moins engageant, ça peut aller plus vite, c'est moins intrusif. Donc là, c'est des photos, on pourrait en voir d'autres. Donc ça peut être une frise photographique ou ça peut être une sélection d'eux. Ça peut être bien sûr en lien avec un thème qui a été évoqué avant. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. On ne va pas photographier comme ça et faire de la photo artistique. Et qu'à partir de là, c'est soit vous, soit la personne qui choisit. Et après, on va faire cette enquête sur photo et c'est ce qu'on appelle, nous, des entretiens de remise en situation. Et quand on travaille avec des métiers où on n'a pas forcément la possibilité de filmer, on fait souvent ce travail-là. Où on va faire des enquêtes en remise en situation. J'ai pris une série de photos avec des plans différents, à des moments différents de la séquence observée. C'est moi qui en ai fait une dizaine. J'aimerais que tu en choisisses deux, ou une et moi une. Oui, on peut se mettre d'accord là-dessus, pour qu'on puisse mettre des mots sur ton expérience à ce moment-là, décrire la situation de classe, à discuter. L'enjeu, c'est d'extraire de nos échanges, de nos analyses, un projet de travail. On va démarrer ensemble. C'est pas moi qui va prescrire l'objet de travail. Mais on va favoriser cette coémergence de l'objet de travail à partir de ces traces d'activité. Les exemples de conduite de ces micro-entretiens, 20 minutes, ça peut être de l'ordre de la description. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vois la situation? Quelles sont tes préoccupations? Donc, on va dire, là, c'est un peu vite, mais en tout cas, c'est de l'ordre de l'expérience. Et puis après, est-ce que la situation présente répond à tes attentes? On est plutôt sur l'interprétation et l'évaluation. Sur quels indices t'appuies-tu pour avoir ça, avec un peu de recul, etc. Et puis après, si tu changeais un peu la situation la prochaine fois, et puis là, on est plutôt sur une approche de transformation et de projection fictionnelle. Le but, bien sûr, c'est pas de faire ça tout azimut, mais d'avoir une thématique, un fil rouge, un fil conducteur. Et pour des collègues en stage de 4 semaines, ça peut être vraiment le chantier prioritaire qu'on donne comme priorité. Et bien sûr, pour moi, c'est directement lié à des questions de développement professionnel, parce que le chantier, il ne va pas être du tout le même en fonction des étapes de développement professionnel des enseignants enseignantes que vous pouvez observer. Et dans un groupe qui semble être homogène en expérience, vous pouvez avoir des décalages énormes dans la façon d'incarner ou de mettre en avant des conduites liées à des étapes de développement professionnel. Donc ici, on travaille ici sur un PNF, un plan national de formation, avec le centre Alain Savary qui vient nous chercher vraiment sur une expertise analyse du travail réel en collaboration avec l'inspection générale, donc et l'équipe du centre Alain Savary, où on va filmer une pratique ordinaire d'enseignement des langues. Et c'est en collaboration avec 5 inspectrices générales, dont la doyenne, qui connaissent Néopace Action, qui veulent vraiment s'acculturer à cette nouvelle méthodologie. C'est à la fois reconnaître l'expertise de l'IFE globalement, dans notre capacité à travailler sous différentes épistémologies sur ces questions d'analyse du travail, et c'est aussi pour elle apprendre de nouvelles façons de conduire des méthodologies d'enquête et de faire en sorte qu'au niveau des IAIPR du second degré, mais aussi des formateurs, formatrices, on puisse progressivement s'emparer d'un modèle, le Sun Studies, avec des éléments de constellation sur des problématisations en situation, de la co-observation, des thématiques particulières et tout un travail sur les préoccupations dans une forme d'horizontalité. Là, c'est simplement pour vous montrer qu'on a filmé la séquence complète. On a fait un synopsis de l'ensemble de la séquence avec différents temps. On pourrait travailler sur l'architecture totale de la séquence. On pourrait au contraire s'intéresser aux exercices de grammaire. On pourrait s'intéresser à la séquence fine. C'est tout à fait intéressant de ne pas être sur une pratique débutante, non pas une pratique problématique, mais une pratique non pas non plus exemplaire, une pratique ordinaire, avec des avantages, des forces et des faiblesses, et avec potentiellement une propension des gens qui regardent la vidéo, eu égard à leur statut d'inspection générale, d'inspecteur, d'accompagnateur, qui vont bien sûr aussi peut-être surréagir par rapport à des façons de faire qui ne sont pas celles des prescriptions, qui sont en décalage potentiel. Voilà. Donc là, c'est passionnant, comme on voit des fois des réactions un peu passionnelles. Donc faire en sorte de décrire de l'activité sans être tout de suite dans la virulence collective. Prendre le temps d'écouter la collègue dans son expérience par rapport à la façon dont elle alterne français-allemand, on était en cours d'allemand, et de voir comment, progressivement, s'organisent des objets d'enquête qui sont ici variés. Vous voyez, l'apprentissage et la mémorisation du lexique, l'évaluation, pronote comme trace élève constitutive même d'enjeux didactiques, avec des controverses énormes, avec des transformations de pratiques. Donc on voit ici une variation même des thématiques et des académies avec des IAIPR et des inspecteurs qui vont maintenant creuser sur ces thématiques ou sur une des thématiques parmi d'autres pour pouvoir mettre au travail les collègues, aller prélever des vidéos avec des volontaires bien sûr en expliquant tout le protocole et faire de l'analyse de l'activité sur des thématiques pour réfléchir à nouveau frais à cette perspective-là. Donc c'est vraiment à la fois s'intéresser à l'activité qui est réelle, mais aussi aux enjeux didactiques. Et pour moi, la grande plus-value, c'est de dire que on a des méthodologies qui sont matures, discutables, fragiles. C'est pour ça aussi qu'on vous réunit et qu'on est là pour discuter de ça avec vous, mais qui ont produit déjà des effets, on les connaît, et qu'à partir de là, on va ici combiner des enjeux d'activité avec des enjeux de savoir des disciplines scolaires. Donc on est sur des enjeux pédagogiques et des enjeux didactiques. Et de voir directement des personnes analyse du travail qui travaillent avec l'inspection générale. Je termine ici simplement sur cette diapositive et c'est ma conclusion. Pour multiplicité des courants, multiplicité des outils, avec des foisonnements qui me dépassent et qui vous dépassent, des enquêtes sur le travail qui peuvent être de nature différente. Et je voudrais reprendre la phrase de Pastré hein, qui met bien en avant le fait que ce développement professionnel, individuel, collectif nécessite peut-être d'articuler ce qu'on apprend directement dans le travail. Parce qu'on apprend dans le travail, on est vraiment dans cette veine de workplace learning, où on apprend dans le travail, par le travail, sur le travail, et que ces moments de réflexivité avec les outils qu'on essaye de mettre en avant permettent d'avoir des apprentissages par l'analyse de l'activité. Mais ce n'est pas immanent, ce n'est pas intuitif, il faut avoir ces méthodologies, il faut comprendre les enjeux pour pouvoir construire ces enquêtes.